Ok, mes amis, alors on va attaquer notre texte. C'est un peu plus court que la fois dernière, puisque nous en sommes au chapitre 14 à partir du verset 21 jusqu'à la fin du chapitre, c'est-à-dire verset 28 inclus. Ouais, et après, on va passer à tout à fait autre chose avec le chapitre suivant. Donc, si quelqu'un veut déjà lire le texte en entier, puis après on prendra le temps.
Après avoir annoncé l'évangile dans cette ville et y avoir fait de nombreux disciples, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche. Ils fortifiaient les disciples et les encourageaient à demeurer fermes dans la foi. Car, leur disait-il, c'est au travers de beaucoup de souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Dans chaque église, il fit élire des responsables et en priant et en jeûnant, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. De là, ils traversèrent la Pisidie et gagnèrent la Pamphylie. Après avoir annoncé la parole à Pergue, ils descendirent au port d'Italie. Et là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils étaient partis et où on les avait confiés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. À leur arrivée, ils réunirent l'Église et racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Ils exposèrent en particulier comme ils avaient ouvert aux non-juifs la porte de la foi. Ils demeurèrent là assez longtemps parmi les disciples.
Okay. Bon, rien qu'à la lecture du texte, je ne sais pas quelle est la version que tu as.
Bible du Semeur.
Mais on sent déjà qu'il y a des différences avec ce qu'on peut avoir dans d'autres versions. Hein.
Oui, Bible du Semeur, c'est...
Si, c'est bien, c'est bien.
C'est au hasard.
De toute façon, il n'y a pas de mauvaise traduction de la Bible.
Non.
Il y a des traductions avec des partis pris qui font que c'est plus ou moins fidèle au grec ou à l'hébreu. Voilà, bon, il ne faut pas se formaliser. Hein. Mm-hmm. Ok. Bon, je pense que j'avais intitulé ça « Sur le chemin du retour ». Et on aura bien compris pourquoi à la lecture du texte, puisqu'ils vont rebrousser chemin. Donc, rappelons-nous qu'ils ont été chassés de Lystre, même durement, et que Paul et Barnabas ont donc continué leur voyage le long de la voie romaine, celle qu'ils avaient prise au départ, ce qui les conduit désormais à Derbé, comme ça qu'il faut le prononcer. Or, certaines versions ont Derbe, d'autres ont Derbé, qui est plus proche du grec. Ils ne sont en tout cas pas du tout découragés par la tentative de lapidation qui a failli être mortelle. Et ils vont poursuivre à Derbé leur ministère, comme si de rien n'était, annonçant la bonne nouvelle dans cette ville, comme à leur habitude, puisqu'on le voit depuis qu'ils sont partis d'Antioche, partout ils passent, c'est ce qu'ils font, que ce soit devant des politiques ou devant des gens simples, comme à Lystre, c'était des paysans. Hein. Mm-hmm. Voilà. Donc on peut attaquer tout
de suite. Ils ne sont pas chassés de Derbé.
Non. Ils repartent gentiment après avoir fondé leur communauté, comme on le verra. Alors, est-ce qu'on peut s'atteler à la première question ? Que se passe-t-il à Derbé ?
Ils annoncent un bon
nouvel. Et la phrase est très courte. Hein.
Oui, ils ont beaucoup de disciples.
Alors voilà, donc on peut en conclure quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé là ?
Qu'ils sont réceptifs, en tout cas.
Ah oui.
Oui.
Il y a des conversions.
On s'est dit, il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas de problème. Donc c'est vrai que la phrase est très courte, mais elle veut dire beaucoup. Puisque elle suppose une période de temps assez longue. Donc ils sont restés au point de fonder une communauté. Bon, ça veut dire qu'il y a pas mal de gens, alors d'après le texte beaucoup, pas mal de gens qui se sont tournés vers l'Évangile dans une ville qui n'est pas beaucoup plus développée que Lystre, sauf que ce n'est pas des paysans. Mais c'est des gens simples, et à part la richesse douanière, comme je l'avais dit la fois passée, il n'y a pas beaucoup de revenus dans cette ville-là. On peut supposer, d'après le texte, qu'il n'y a pas de juifs, puisqu'on n'y parle pas de synagogue, mm-hmm. on peut supposer que c'est une très petite minorité et que la plupart sont plutôt des païens, et notamment parmi les convertis. En tout cas, ils n'ont pas rencontré... d'opposition, je serais suggéré par Luc si c'était le cas, et il faut bien dire que même l'opposition qu'ils ont rencontrée avant n'a pas entamé leur détermination d'évangéliser tout un chacun, tous ceux qu'ils rencontrent, et c'est le cas ici. Et le texte nous précise donc au 21b qu'ils ont fait, alors ça dépend des traductions, de nombreux disciples, d'assez nombreux disciples, etc. Donc, résultat plutôt encourageant. Pour une fois, on n'est pas devant de grosses difficultés. Les efforts sont couronnés de succès, pas d'opposition flagrante dans cette ville. Et nos deux évangélistes quittent cette contrée en y ayant établi une église relativement solide. Alors, c'est pour ça que je dis que tout ça laisse supposer un certain temps, peut-être quelques mois de nouveau, passer à cet endroit-là. Et qu'est-ce qu'ils font ?
Ils retournent par les villes d'où ils avaient été chassés.
Exactement.
Et
donc, pour être certain qu'on comprenne bien, Luc énumère, dans l'ordre inverse, évidemment, dans l'ordre du retour, toutes les villes dans lesquelles il y a eu quand même de sérieux problèmes, et particulièrement à Lystre. Donc, littéralement, le grec dit « ils retournèrent ». C'est une volonté, quelque part. Alors, qu'est-ce que...
D'une manière un peu différente, quand même.
Oui.
Ils ne vont plus à la synagogue prêcher.
Exactement.
Ils vont plutôt dans les églises, les
communautés. Alors, leur but, c'est donc... Exactement. Le but, c'est d'affermir les communautés. On y reviendra dans un moment. Donc, le texte nous dit qu'ils repassent par Lystre, Iconium, Antioche... Et le verbe en grec, je le disais, c'est « ils retournèrent », donc ça traduit une intention. Ils auraient pu faire autrement, mais ils préfèrent retourner sur leur pas. Malgré, et on le sait, le réel danger. Ils ont rencontré une sérieuse opposition. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait un autre chemin possible, beaucoup plus court, pour rejoindre Antioche de Syrie.
Oui, c'est des montagnes. Ouais.
Donc, il fallait passer directement par une route romaine qui traverse la zone montagneuse, assez dangereuse, escarpée, etc., pour redescendre directement sur la Cilicie. Vous voyez, la Cilicie, c'est le territoire de Paul. Il connaît bien la Cilicie dans laquelle il est né. Il est né à Tarse, ne l'oublions pas. Donc, en fait, il sait qu'il y a un chemin beaucoup plus court pour rentrer depuis la Cilicie à Antioche, qui n'est plus si loin, mais donc ils font le choix de revenir sur leur pas, au lieu de prendre la facilité d'aller se reposer à Antioche, de tout refaire à l'envers, de reprendre un bateau pour rentrer à Antioche. On y reviendra dans un moment. Donc on voit bien qu'ils ont décidé de le faire, que c'est pas juste... il n'y avait pas d'autre route, alors on fait comme on peut. Ils rebroussent chemin, passent par ces villes, et on est en droit de se demander pourquoi ils le font. Alors tu as abordé un tout petit peu la réponse, parce qu'il y a une raison.
Ils ont laissé sur place des gens qui étaient engagés.
Oui.
Donc il faut
alors, qu'est-ce qui a marqué, en tout cas... Antioche un peu moins, mais Iconium et Lystre, qu'est-ce qui a marqué le... Quelles raisons pourrait-on trouver, qui sont là, sous nos yeux, retourner dans ces deux villes-là en particulier ?
On voit si la persécution n'aurait pas détruit les églises.
Alors, voilà. Ils sont partis en ayant été chassés, bannis, voire tués. Et donc, ils n'ont pas pu achever leur travail, ni dans cette ville d'Iconium, ni à Lystre. Ils ont dû faire confiance au Seigneur et dire, on se barre, on va aller faire le ministère ailleurs. Mais tout d'un coup, peut-être que les persécutions qu'ils ont endurées et le succès de Derbé leur redonnent du courage aussi pour retourner sur leur pas et dire, maintenant, il faut quand même solidifier ces communautés. Et peut-être prendre la température, effectivement. Est-ce qu'elles ont résisté à notre départ et à la pression culturelle, environnante ou religieuse ? Donc, il y avait de bonnes raisons d'y retourner. On devine évidemment que ce n'est pas par dolorisme ou masochisme, ni par envie de provoquer ceux qui les avaient déjà rejetés, une première fois en tout cas, et on va le découvrir donc dans les versets suivants, qui vont un petit peu plus expliquer ce qu'ils sont allés faire.
Oui, si. Bon, ce qui m'a frappé aussi, c'est qu'il est bien dit, donc ils encouragent, etc. Et il leur signale que c'est par beaucoup de tribulations que nous entrerons dans le royaume de Dieu. Mmh. Comme, voilà, la souffrance, il ne faut pas en avoir peur, quoi.
Oui. L'épreuve fait partie des choses normales.
Oui.
Même plus que l'épreuve, parfois, la persécution, la mort.
Mais peut-être que ça montre, comme tu le soulèves, qu'ils ont dû subir aussi des persécutions.
Oui.
Ce serait étonnant que tout se soit calmé et que subitement ce soit le bien-aimé du peuple.
Surtout en demeurant acteur et actif sur le terrain, quoi. Et qu'est-ce qu'on apprend d'autre sur ces communautés qu'ils ont laissées ? Alors, indirectement, dans le texte. Donc, on a dit qu'ils y retournaient pour affermir, c'est ce que tu avais dit tout à l'heure, mais quoi d'autre ?
Mais qu'il faut persévérer, malgré.
Oui.
Pour
les
responsables.
Donc,
vous imaginez qu'ils sont partis sans qu'il y ait eu des responsables officiels. Ça veut dire qu'ils ont fait vraiment confiance au Seigneur, que le groupe des disciples, parmi lesquels il y avait peut-être deux, trois têtes, hein, quand même, dans tout groupe, il y a des gens qui sont plus leaders que d'autres. Donc il est probable que sans n'avoir pu nommer qui que ce soit, ils sont partis, laissant les églises se débrouiller. Et donc il y a deux aspects à leur mission, refaire de l'exhortation, de l'affermissement, être certain que les églises ont tenu le coup, etc. Et pour cela, ils vont aussi, dans un deuxième temps, nommer des responsables. On y reviendra dans quelques instants. On va s'attarder un tout petit peu sur l'histoire de l'affermissement. Alors, je ne sais pas, dans vos versions, moi dans la top, c'est « ils y affermissaient le cœur des disciples ».
Fortifié.
D'accord. Parce que effectivement. Le texte grec parle des âmes, non pas du cœur. Donc, ils y affermissaient les âmes des croyants, des disciples. Et donc, on pourrait peut-être traduire ça en français courant, parce que affermir des âmes, on ne sait pas trop bien ce que c'est. Ce qui me concerne, en tout cas, si on me disait ça, dire bon. Mais on devrait plutôt évoquer ici l'affermissement des personnes, des individualités, des identités, et notamment des personnalités chrétiennes, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait la différence entre le statut de païen que j'avais quelques mois auparavant et puis la personne chrétienne que je suis devenue. Et donc ils sont venus parachever le travail de croissance personnelle, de croissance dans la foi, pour chacun des individus qui composaient. Alors ça, on comprend mieux en français. Quand on parle des âmes, en général, on parle d'un groupe de personnes. Voilà. Oui. Bon. Donc, on voit que leur travail a été un travail de consolidation très sérieux, une sorte de un à un, ou des travaux de groupe, peu importe. Parce que si on traduit « cœur », ça laisse supposer autre chose. Si on dit qu'ils sont allés affermir les cœurs, c'est au fond redonner du courage. Or, c'est pas ce que le grec dit. Ils ne sont pas là simplement pour dire « Ah, vous avez eu un petit peu bobo, allez, reprenez-vous en main, le Seigneur est avec vous, etc. » Ce n'est pas ça. Ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de consoler, de passer de la pommade sur les problèmes qu'ils ont pu rencontrer, mais vraiment les faire grandir individuellement dans la foi. Ce qui, de nouveau, entre parenthèses, présuppose un peu de temps. S'ils se sont intéressés à chacun, dans chacune des villes, vous imaginez les trois villes, on voit déjà que dans une ville ça va prendre du temps, dans trois, ça prend des mois, par conséquent. Donc ils ont pris leur temps, en gros. Et la raison de cet affermissement, elle est très simple à comprendre. Si eux-mêmes ont enduré des persécutions solides, des oppositions claires, de la part en tout cas des Juifs, il était temps qu'ils prennent le temps de consolider chacun des membres composant ces églises, de renforcer l'ancrage de ces nouveaux convertis, de s'assurer qu'ils croient encore, qu'ils tiennent bon malgré le vent mauvais, d'autant plus qu'ils ont dû, je le répète, les quitter précipitamment, alors que leur mission n'était pas achevée. Alors, il s'agit aussi peut-être, dans cet affermissement, de les préparer dans les trois villes aux persécutions au pluriel et aux souffrances qui pourraient survenir à cause de leur foi. Parce que manifestement, s'il y a eu de l'opposition dans les trois villes, il pourra encore y en avoir demain, parce que plus les communautés vont grandir, plus ceux qui sont radicalement opposés pourraient s'en prendre à eux. Donc ils font une œuvre intéressante, ça me fait penser à l'œuvre de Porte Ouverte d'ailleurs, qui fait ce travail d'affermissement dans bien des pays du monde, clandestinement pour la plupart du temps, mais qui prennent le temps d'aller rencontrer les églises clandestines, les églises locales ou les chrétiens individuels, hein, quand c'est vraiment de la clandestinité, pour leur donner les moyens de tenir bon dans leur foi. Alors, tenir bon ne veut pas dire « je fais tout pour me faire persécuter ». Tenir bon, c'est comment je peux continuer à croire malgré cet environnement plutôt opposé, plutôt négatif, voire même dangereux pour mon physique, pour ma vie personnelle. Et que font-ils dans cet affermissement? Le texte nous le dit, le verbe qui suit. Voilà, c'est toi Anne-Marie qui l'avait dit. Il les engageait à persévérer dans la foi. Le texte grec dit les exhortant à demeurer dans la foi. C'est-à-dire à vivre selon la foi qu'ils ont, la foi qu'ils ont découvert en Jésus le Messie, justement, eux qui étaient des païens pour la plupart. Et la foi, on peut dire ici que la foi, c'est synonyme de vie chrétienne. Donc ils sont là pour les engager à persévérer dans cette nouvelle manière de vivre qu'est la vie chrétienne basée sur une connaissance de Jésus et une relation personnelle, quotidienne, avec ce Jésus. Et j'ai envie de dire, ben, la foi c'est quoi? C'est la vie qui démontre extérieurement ce que l'on croit en son fort intérieur. D'accord? Donc on comprend que dans certains pays ou régions, on soit obligé de ne pas manifester extérieurement pour ne pas bêtement mourir, hein, pour rien, prodéos, hein, alors que dans d'autres cas, on voit que des gens sont appelés à être martyrs. Car tout comme il y a une vocation, à mon avis, à être croyant, il y en a une quand il s'agit du martyr. Je ne sais pas si vous avez lu parfois les textes de Porte Ouverte, mais c'est très intéressant de découvrir que ces gens qui ont été persécutés, battus, parfois tués, brûlés, etc., n'en veulent pas à leurs oppresseurs. Et donc, il y a sans doute là une vocation tout à fait particulière qui est lumière dans l'obscurité totale, de par sa propre vie, et manifester que l'attachement à Jésus est plus fort que la menace physique, que l'emprisonnement, etc., etc. Et je pense à beaucoup de nos frères et sœurs en Iran qui sont parfois enfermés pendant des années dans des prisons comme celle d'Erbil, qui est la pire du pays, avec des oppositions, avec des simulacres de fusillades ou de pendaisons. Enfin bref, c'est assez fou quand on y pense. Et on se dit toujours, nous, en tout cas vu de l'Occident, ce serait tellement simple de dire, bon, ça va. Je crois plus. Beaucoup plus simple pour retrouver la liberté, etc. Et pourtant, nombre de nos frères et sœurs, je ne vais pas dire sans tête, parce que ce ne serait pas le bon verbe, mais sont tellement empreints de Jésus qu'ils ne veulent pas abandonner Jésus, pour rien au monde. Voilà, donc il les engage dans ce travail-là, une foi qui devient espérance, et qui donc, à partir du moment où j'espère dans la vie, ça peut me permettre de traverser les épreuves du quotidien, même les plus vaches et les plus dures. Hein? Voilà. Et puis alors, il y a cette phrase un peu mystérieuse du verset 22c, la dernière partie, qui ressemble un peu à une citation. Alors, je vais la relire dans la version Tob. Hein. « Il nous faut, disait-il, passé par beaucoup de détresse pour entrer dans le royaume de Dieu. Et Dieu sait si cette phrase a été comprise parfois presque à contresens. Je vais essayer d'y venir dans un moment. Mais qu'est-ce qu'on remarque par rapport au reste de l'écrit de Luc ? Il y a quelque chose qui change ici. Jusque-là, on était dans un récit un peu historique, un peu le journal de bord de ce qui se passe, etc. Puis tout d'un coup, on a cette phrase qui sort du lot. C'est donc une citation.
Oui,
alors de Paul ou de Barnabas, on n'en sait rien, ou des deux, peu importe, qui parle. Donc c'est vraiment pris comme une des phrases qui a été prononcée par l'un ou l'autre. Et elle inclut dans le « nous » non seulement les frères et sœurs de Lystre, Antioche, Iconium, etc., mais les apôtres. Donc les Paul et Barnabas se mettent dans le « nous ». Et donc ils sont en train de dire qu'on soit apôtre, que l'on soit apôtre des païens ou des judéens, dans tous les cas, il y a un passage obligé par des détresses pour arriver finalement jusqu'au royaume. Ça, c'est quand même intéressant, parce qu'il s'inclut dans cette réalité obligée, une réalité de l'épreuve. Et ça nous rappelle quelque chose quand même, non ? Est-ce que Paul ou Barnabas ou les deux citent-ils cette réalité comme ça ? Ou est-ce qu'elle est fondée quelque part ?
Par Jésus.
Oui. Effectivement. Donc, si le Christ lui-même a eu part aux difficultés, alors il faut revoir tout son ministère, plus la fin, évidemment, sa mort sur la croix, s'il y a eu part, non seulement il y a eu part, mais il nous avertit lui-même, et ça se trouve dans Luc, c'est-à-dire dans le premier tome. Rappelez-vous, Luc, c'est le premier tome, Actes, c'est le deuxième tome. Eh bien, dans Luc, dans le même livre, Luc 17, verset 25, on voit Jésus qui avertit. Il avertit tous les croyants. Si vous me suivez, c'est le passage obligé.
Luc 17
ouais. 17, 25. Si quelqu'un veut le lire, c'est bien.
Mais il faut qu'auparavant, qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. C'est ça ?
Donc il parle de lui. Donc il nous avertit que c'est ce qui va lui arriver. Et puis il dit dans d'autres passages que voilà, suis-moi, ça ne veut pas dire que c'est la voie royale et facile. Et Paul va faire de même. Dans d'autres écrits, alors en dehors des Actes, je pense au chapitre 8 de Romains, par exemple, ou à Thessaloniciens, Thessaloniciens chapitre 3, versets 3 et 4, où lui aussi, il redit que si on se tourne vers Jésus, si on suit Jésus, il y a un risque. Donc suivre Jésus, ce n'est pas la panacée spécialement. Et c'est au fond ce que présenteront tous les prédicateurs du Nouveau Testament, c'est que vivre disciple de Jésus entraîne un certain nombre de difficultés.
J'ai ici une référence de 2 Timothée 3:12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés.
Voilà. Donc on s'aperçoit que Paul a fait sienne une réalité qui était d'abord christologique au départ, et il part du principe que si Christ annonce ces choses, il faut que l'Église en prenne réellement compte, et sache que c'est quand même la voie par laquelle il faut passer. Et donc ça part de quelle réalité ? Au fond, je pense que Paul, plus que quiconque, imagine bien que les chrétiens qui sont dans le monde sont pas au ciel, sont dans le monde. Et par conséquent, s'ils sont dans le monde et qu'ils commencent à témoigner, l'opposition est tout à fait probable. Et ils ne sont pas épargnés. Donc ni Jésus ni Paul n'ont été dire « Ah, si tu me suis, ça va aller, tu seras protégé, il n'y aura aucun problème, ça sera toujours moi, je vais triompher de tout, etc. etc. » Tapis rouge, quoi. Ben, c'est pas ce qui est dit. Nulle part ce n'est dit comme ça. Et deuxièmement, si on vit véritablement de l'Évangile, il faut comprendre que nous n'entrerons pas dans le royaume de Dieu sans avoir rencontré des épreuves. C'est ce que la phrase dit. Donc si tu vises en me suivant le royaume des cieux, le royaume de Dieu, eh bien sache qu'il y a un passage obligé par l'opposition des autres, notamment de ceux qui ne croient pas. C'est une voie qu'on ne peut pas éviter. Certains l'ont connu parmi nous au travail, ne serait-ce que par des moqueries, des oppositions. Je pense à Sullivan d'ailleurs en disant cela. Mais ça peut être pire. Ça peut être privé de travail. Il y a des régimes dans lesquels on ne peut pas accéder au travail parce que si. Alors il y a une période où c'était les Juifs, sous le régime nazi. Mais ça peut être vrai aussi pour l'Église. Et troisièmement, parce qu'il y a encore une troisième manière de faire résonner cette phrase de Paul, ce n'est donc pas nécessaire de chercher les épreuves. C'est-à-dire, la voie de l'oriste n'est pas au programme. Il n'y a pas besoin que tu cherches les épreuves. Tu vas les rencontrer. Elles vont bien arriver toutes seules. Surtout si tu es fidèle. C'est-à-dire si ta vie est vraiment une vraie vie chrétienne, elle ne peut que faire tâche. Et si elle fait tâche, elle peut entraîner dans ta propre famille, dans ton milieu de travail, dans ton milieu ethnique des oppositions, des gens qui vont te saquer à cause du fait que tu es chrétien, etc. Donc elles arriveront bien toutes seules. Et donc, pour en finir avec ce côté-là, il ne s'agit donc pas de gagner son ciel. Parce que certains diraient, ah, moi j'aime bien les épreuves, plus il y en a, plus je suis sûr d'entrer au paradis. Mais non, c'est pas nécessaire non plus. On n'a pas besoin de gagner son ciel par des épreuves auxquelles on va aller au-devant en fanfaronnant, quoi. Et voilà donc un petit peu cette phrase mystérieuse, il nous faut passer par beaucoup de détresse, etc. Si vous regardez bien, elle est un peu charnière dans cette petite péricope. C'est-à-dire que tout ce qui est avant, c'est le programme d'affermissement. Ce verset nous fait découvrir la raison de cet affermissement. La raison, c'est qu'il y a toujours des détresses, il y a toujours des souffrances, il y a toujours des épreuves. Je vais en prendre une autre qui est plus neutre, par exemple. Perdre un être cher, alors que tu es croyant. On a un ami qu'on va aller voir demain. Ils ont perdu, je leur avais parlé dans une des réunions, ils ont perdu leur fils Timothée, je ne sais pas si la photo est encore là, d'une trentaine d'années, d'une maladie, cancer dégueulasse et rapide, mais qui ont énormément de mal. Et tu sens que dans la détresse, dans cette détresse morale, se posent toutes les questions, pourquoi ? Pourquoi Dieu n'a rien fait ? On a pourtant prié, c'est ce qu'il me disait hier au téléphone, on a pourtant prié pour lui, pour la guérison, et puis ça a été pire. On leur avait annoncé qu'il y avait un traitement miracle et que ça allait bien se passer, et deux semaines après, on leur dit, ben non, il n'en a plus que pour une semaine. Parce que le traitement n'a pas marché. Voilà. Donc, je pense qu'il y a un peu tout ça aussi. Les détresses, c'est pas simplement des choses qui nous sont faites parce qu'on croit en Dieu, mais aussi des épreuves qui sont les épreuves de la vie, tout simplement, du quotidien, de la maladie, de la mort, etc. Alors, c'est alors, puisque je disais que c'était un texte charnière, qu'on nous dit qu'une fois que ce travail a été fait, une fois que les gens ont bien compris que la détresse était au programme, qu'il fallait se serrer les coudes, eh bien, verset 23, eh bien, on fait ce qu'il faut. Et faire ce qu'il faut, c'est nommer des gens responsables. Et on va voir que ça a un intérêt. Surtout dans ces églises où ils n'avaient pas pu le faire, ils n'avaient pas pu mettre en place quelque chose qui était de l'ordre de la direction, etc. Alors, le grec, je ne sais pas dans vos versions, mais moi, dans la top, c'était dans chaque église, ils leur désignèrent des anciens.
Oui, ils leur désignèrent.
Ah non, c'est pas ça.
Ils firent nommer
des anciens.
Ah, ils firent nommer, alors ça dépend, effectivement.
Très différent.
Oui, très différent.
Ah oui, c'est opposé.
Oui, d'un côté, c'est eux qui mais de l'autre côté, ils le font.
Ben oui.
Ah oui.
Alors, on ne sait pas trop. Hein, parce
on ne sait pas trop.
Ben oui. On peut traduire, ayant désigné, donc ça, ce serait la version la plus littérale, ayant désigné, mais qui? Qui a désigné qui? On ne sait pas. C'est pour ça que nos traductions varient très très fort. Certains sont partis sur l'option l'Église a, comme c'était le cas à Jérusalem pour les diacres par exemple, proposé des candidats qui ont été acceptés par les apôtres, puis on les a nommés. Ici, on ne sait pas trop comment ça s'est passé. Alors, soit c'est Paul et Barnabas qui les ont désignés, soit il y a eu une procédure plus communautaire. Mais ce qui est intéressant, c'est le verbe qui est utilisé. Si on traduit très littéralement le verbe désigner en grec, c'est « ils désignèrent de la main ». Alors, soit ça veut dire « on vote à main levée », soit on a montré des candidats. Alors, donc je dis « vote à main levée » ou « élection par désignation ». Le verbe qui est utilisé, c'est un verbe qui utilise l'idée de la main, en tout cas, hein, puisqu'il y a le mot « keiro » dans le verbe, qui est une sorte de désignation. Ça peut même être une imposition des mains, d'ailleurs. Hein. Voilà, ça peut être plusieurs modes différents. Mais on ne sait toujours pas, et c'est pour ça que je crois qu'il faut être prudent, qui. Est-ce que ce sont juste Paul et Barnabas qui leur ont désigné des gens? Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la version grecque, qui se rapproche un peu de la Tob d'ailleurs, hein, on dit « ayant désigné », donc jusqu'à là on ne sait pas, mais il est dit « pour eux » en grec. « Ayant désigné pour eux ». Donc, si quelqu'un désigne pour l'Église, c'est que peut-être l'Église n'a pas entériné, vous voyez la décision. C'est-à-dire que c'est bien Paul et Barnabas qui ont entériné peut-être le choix de l'Église. Ça, c'est possible aussi. D'accord ? Donc, il faut se rendre compte, c'est pas si simple de traduire de manière exacte ce qui s'est réellement passé. Mais, dans chacune des églises, alors je répète, c'est quand même dans trois villes différentes, hein, dans chaque église, c'est-à-dire des églises fondées au courant du premier voyage missionnaire de Paul. Et ce sont ces mêmes églises qui seront les futurs récipiendaires de la lettre aux Galates. Donc la lettre aux Galates, elle va être écrite pour ces églises fondées lors du premier voyage. D'accord ? Et il désigne donc des responsables, qu'on appelle anciens dans le texte grec, en sachant que presbyteros en grec, ça vise toujours des responsables qui ont une certaine expérience. Ce n'est pas nécessairement des personnes âgées, mais des gens d'expérience. Et c'était la coutume dans tout le bassin méditerranéen, que ce soit les édiles d'une ville, ou que ce soit les responsables d'une synagogue, ou des communautés naissantes, des communautés messianiques, on nommait des gens avec un minimum d'expérience et de capacité, notamment la capacité de parler, d'enseigner, de prendre position, de diriger, de gérer, etc. etc.
Parce qu'ici, ils sont tout jeunes, finalement.
Mais même Paul est tout jeune.
Ah oui.
Ah oui, il n'est pas si vieux que ça à l'époque. Hein.
Même Paul.
Ouais. Et d'ailleurs, il va nommer des gens jeunes, comme Timothée à une période. Hein. Ah, ce n'est pas des vieux. Mais des gens qui ont alors une certaine expérience et aussi, je pense, un ancrage spirituel véritable. Parce que c'est aussi ça. Comment garantir que ces nominations ne sont pas juste des exercices de pouvoir. Pour ça, il faut que ce soit balancé, quoi.
Et donc, finalement, dans l'Écriture, on n'a pas d'autres endroits où on parle de la nomination de ces anciens qui nous permettraient de nous éclairer.
Dans la suite des lettres pastorales.
Et ça ne nous éclaire pas par rapport à ceci.
Mais écoute, en tout cas, on peut, à défaut, puisqu'ici on est dans les actes et qu'on n'a pas encore les lettres pastorales à l'époque, ce qu'on peut au moins dire, c'est que ce qui s'est passé à Jérusalem pour nommer des diacres, j'allais dire de simples diacres,
qui vont servir.
Il n'y a pas de raison que ça ne se soit pas passé pour des ministères plus importants que le diaconat. Donc, c'est-à-dire, on sollicite l'Église, rappelez-vous, c'était au tout début des Actes, quand on a étudié, on demande à l'Église de Jérusalem de choisir des candidats. C'est la communauté qui choisit. Mmh. Et elle en choisit 7. Et il se trouve que les 7 sont approuvés par le Collège des Apôtres, qui aurait très bien pu dire lui non, lui oui, voilà. Mais ils ne l'ont pas fait, parce qu'ils ont approuvé le choix judicieux de la communauté naissante à Jérusalem. Donc on peut se dire que si ça s'est passé comme ça à Jérusalem, il n'y a pas de raison spécifique que ça ne se passe pas ailleurs pour des charges beaucoup plus importantes. D'ailleurs, vous savez que dans notre milieu baptiste, pour ceux qui ont participé à Fléron et nous dans notre communauté, dans le milieu baptiste, on demande à l'Église, en général, son avis. D'ailleurs, il y a des communautés où c'est même beaucoup plus puriste, chez les baptistes purs, hein, c'était le cas à Fléron, où on sollicite une désignation de candidature. C'est-à-dire qu'on demande à la communauté « Qui verriez-vous comme ancien ?» D'accord ? Alors que dans d'autres communautés, alors je ne dis pas qu'elles sont plus sages, hein, je dirais peut-être plus prudes, elles disent elles-mêmes « Ah, confions au collège des anciens la proposition de candidature et nous, Église, on sanctionnera. Mm-hmm. On votera oui ou on votera non. Enfin, » l'un dans l'autre, ça revient un peu au même, hein, entre nous soit dit. Sauf que parfois, dans certaines églises, le collège des anciens insiste sur son... la qualité de son choix.
De son poulet.
Donc on ne laisse pas vraiment.
De son poulet.
Okay.
Je suis en train de relire encore une fois le livre d'Alfred Kuhn, Le ministère dans l'Église, très très bon livre, où il décrit à travers tout le Nouveau Testament et aussi l'Ancien en partie, comment qu'est-ce que c'est que les anciens, qu'est-ce que c'est des diacres, comment est-ce qu'on le nomme, comment est-ce qu'on le met à l'épreuve, etc. C'est vraiment toute une procédure et qui est vraiment bien faite. Et pour revenir à Fléron, il faut quand même dire qu'on a connu à Fléron un temps où c'était l'appel au volontariat. Mm-hmm. Et ça, il faut absolument éviter cela. Mm-hmm.
Parce que lors
d'un dimanche au culte, on peut dire, voilà, on a besoin d'être dans le conseil, qui veut venir nous aider ? Mm-hmm. Ça peut complètement foirer, ça. Et on a eu à Fléron le risque que ça foire, avec des gens qui n'étaient même pas encore membres.
Alors c'est pour
qui
ça.
Voulaient, et qu'on proposait même qu'ils rentrent dans le conseil.
C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez fait attention à la petite phrase, il faut balancer l'exercice de la gestion d'une communauté par des qualités ou des compétences plus spirituelles. Hein, ce n'est pas juste un exercice de pouvoir, c'est aussi la gestion d'une communauté, de communion. Et pour gérer une communion autour du Christ, bah, il faut quand même quelques personnes qui sachent de quoi elles parlent. Qui sache prêcher, qui sache accompagner, qui sache écouter, qui sache prier pour les gens. Bon, voilà. Et ça, ça demande une certaine maturité. Il n'y a rien à faire.
Quand on voit ce qu'Alfred Kuhn développe à travers la Bible, le ministère d'anciens et même de diacres, et il parle du grec, etc., c'est vraiment très profond. C'est déjà une bonne brique. C'est pas du pupitre, hein. C'est sérieux. Oui. Et donc, l'Église a une responsabilité de prendre ça avec beaucoup de sérieux. Mmh. Et lui, il développe l'idée que les anciens, s'il y a nomination besoin, gèrent cela, proposent à l'Église d'intervenir, de faire un choix déjà, de dire, voilà, qui estimez-vous, de prier pour cela, de demander que le Saint-Esprit éclaire, pour que des noms sortent, par l'Église, mais aussi par les anciens. C'est, les anciens peuvent, alors, à ce moment-là, en sachant plus de choses, intervenir. C'est vraiment intéressant. C'est un livre que ça vaut la peine de le lire. Parce que ça donne toute une procédure. Et j'ai été un petit peu en but avec un chrétien qui vient des témoins de Jéhovah. Et après 2 ans de conversion, on a eu l'occasion de se rencontrer, de faire connaissance. Et lui, il était à cheval sur le fait que jamais l'Église ne peut voter. Jamais on ne vote un ancien. Jamais on ne vote un diacre. Alors je lui disais, mais écoute, excuse-moi, mais je ne trouve pas ça dans la Bible. Je vois que l'Église, elle est, on la prend à part et on lui demande son avis. Et il y a l'idée de vote par la main, comme tu as dit tout à l'heure. Et ça a été toute une discussion assez difficile. Mais on voit l'importance de l'Église dans le vote des anciens et des diacres aussi. On ne peut pas dire il n'y a que les anciens qui choisissent et l'Église n'a qu'à dire oui, amen, ok, vous avez choisi, on accepte ces frères. Non, on ne peut pas imposer à l'Église des frères comme ça. Bon, ben oui, ok, d'accord. Et ça ne se fait pas comme ça. Et c'est toute une étude vraiment très intéressante.
D'autant que dans une communauté naissante ou même vivante, tout simplement, on ne peut pas dénier au commun des mortels le droit de savoir si quelqu'un est un bon gouvernant ou un mauvais gouvernant. Or, parfois, dans les compétences, on nomme des gens parce qu'ils ont une certaine compétence, mais on oublie qu'ils n'ont peut-être pas la compétence de la solidarité et de l'amour du prochain, et que c'est quand même le béaba aussi. Donc voilà, on peut avoir des compétences techniques qui, malheureusement, ne sont pas balancées par un lien fort avec l'amour, avec le respect de l'autre, etc. Et donc, parfois, on aboutit à des situations de pasteurs ou d'anciens qui sont, je vais le dire, imbuvables, qui se comportent de manière...
Despotique.
Despotique, hein. Oui, tout à fait. Et ça, ça contrevient à l'Évangile même. Même si c'est un bon prédicateur, quelque part, cet aspect-là détricote le peu qui est fait sur le plan évangélisation. Et ça, c'est pas normal, quoi. Et donc, c'est pour ça que j'insiste un petit peu, et merci pour le complément avec Kuhn, en disant, ben voilà, une des grandes raisons pour lesquelles ils ont fait rebrousser chemin, c'est la désignation de ses responsables, avec tout ce qu'on vient de dire maintenant. Des personnes capables d'affermir, d'exhorter, d'accompagner, et que les communautés messianiques puissent alors résister davantage, qu'elles puissent durer dans le temps, parce qu'il y a des gens qui sont là pour entraîner la communauté, pour la diriger dans le sens de conduire, hein, pas faites ceci, faites cela, organiser la vie communautaire. Et donc, c'est donner des moyens de tenir efficacement, hein, dans ces églises qui étaient nées dans la terrible pression et puis le départ précipité de Paul et Barnabas. Et ben maintenant, on les a équipées pour qu'elles puissent durer dans le temps. Et puis, ces anciens, ben, ils sont aussi là comme rassembleurs, comme guides, comme consolateur, et ça, tout ça, c'est important. Et ça me fait dire donc que l'institutionnalisation, c'est un grand mot, mais c'est vrai qu'à partir du moment où tu nommes des responsables, c'est une institutionnalisation, mais une institutionnalisation pour de bonnes raisons. C'est pas l'institution pour l'institution, c'est l'institution pour un meilleur témoignage, pour un meilleur service, et ça, c'est très important. Alors, résultat des courses, où que l'on aille dans le monde, quand on rencontre une portion de l'Église universelle, on trouve des responsables partout. Alors, quelle que soit la procédure, le moyen, je pense même à une période aux églises de frères, où il n'y avait pas de pasteur, où on ne nommait pas de pasteur, eh bien, quelque part, même si on ne nommait pas d'anciens, il y en avait. Il y avait toujours deux, trois têtes qui sortaient du lot et qui faisaient quand même le job. Donc voilà, on ne reconnaissait pas nécessairement, mais ils avaient une mission.
C'est pas mieux comme ça.
Oui, c'est séduisant.
Ben, je sais pas si
moi, ça me séduit, moi.
Oui, c'est séduisant, mais en même temps, tu peux avoir le problème de ceux qui s'instituent eux-mêmes, chefs sur les autres. Et donc, pour moi, c'est quand même un peu problématique. Il faut au moins qu'il y ait une reconnaissance de l'Église, quoi, tu vois. Alors, si on est dans la perspective que je viens de citer des frères, il faut savoir que c'était des églises assez exigeantes quand même, les frères.
Ouais. Oui.
Et donc, l'Église ne se serait pas nécessairement laissé faire si un frère abusait, on lui aurait dit, même publiquement. Tu vois ? Bon, il y avait quand même donc une... S'il n'y avait pas d'élection, il y avait quand même un contre-pouvoir, une manière de balancer tout ça. Voilà. Mais ceci dit, ça n'empêche jamais de déraper dans tout milieu, quelle que soit la procédure. Il y a moyen d'abuser, il y a moyen de prendre le pouvoir. Enfin, il faut espérer le moins possible, évidemment. Hein. Donc l'institutionnalisation, pour moi, c'est pas négatif. C'est une manière de d'affermir et de rendre le travail durable. Et c'est dans ce contexte donc difficile et en grande partie païen que Paul et Barnabas osent, alors là je ne sais pas quand même ce que vous en pensez, mais ils osent confier un ministère de direction à des néophytes, des gens qui se sont convertis il y a quelques mois. D'accord ? Donc avant de repartir à Antioche, ils sont convaincus tous les deux qu'il est nécessaire de nommer des gens, les meilleurs possibles, évidemment. Et il faut souligner quand même une chose, alors, mes amis, à l'aune de l'histoire, c'est que ces nominations que je qualifierais d'audacieuses, c'est celles que beaucoup de missionnaires occidentaux n'ont pas osé mettre en place au courant du 19e et du 20e siècle. Donc il faut savoir que pendant longtemps, il y a des missions et des missionnaires qui ont eu des comportements paternalistes parce que on pensait que les pauvres maghrébins, les pauvres africains, les pauvres asiatiques ne pourraient pas mener eux-mêmes leur barque avec Jésus. Quand même fort de café, quoi, quelque part. Donc on s'est comporté quand même un peu en colonialiste de la foi. Or, moi je m'aperçois qu'un type comme Paul, qui est quand même pas n'importe qui, et Barnabas non plus, nomme, après quelques mois de travail, et bien sûr d'enseignement, d'exhortation, ok, ils ont fait leur job, mais ils osent confier des responsabilités à des gens qui se sont convertis il y a 5, 6, 7 mois.
Mais on pourrait imaginer aussi...
D'origine païenne, par-dessus le marché. Donc, toutes les églises n'ont pas des juifs à leur disposition. Notamment à Derbé, par exemple, il est fort probable qu'il n'y avait pas de juifs. Donc comment ceux qui n'ont pas l'Ancien Testament, qui n'ont pas la culture biblique des Juifs, pouvaient avoir une responsabilité? Eh bien, Paul pense que c'est possible. Pourquoi, d'après vous? Est-ce que c'est juste parce qu'il fallait des gens? Alors on a nommé le meilleur du meilleur.
Ils sont habités du
Saint-Esprit. Ah, suppose, exactement. Donc je pense que pour Paul, c'est très clair, je suppose même qu'ils ont désigné des gens qui leur avaient été soufflés intérieurement, c'est-à-dire pour leur qualité, mais aussi parce que Dieu y est pour quelque chose, et que Dieu choisit lui-même ses soldats, ses hommes, ses gens qui sont dans le ministère, etc. Il les appelle, il y a une vocation, je pense que tout ça, ça s'est fait. Et moi, ce qui quand même me séduit, c'est de se dire qu'ils ont été capables d'avoir ce discernement en un espace-temps relativement court. Tu vois ? Alors, je pense, je vais vous donner un exemple, mais quand on pense aujourd'hui qu'un pasteur qui a pris le temps d'étudier, a au moins étudié 2-3 ans, soit dans un institut, soit dans une fac, auquel cas ça serait presque 4 ans, parfois même avec un doctorat à la clé, ce qui fait encore un peu plus, tu te dis sacrément audacieux, Paul. Parce qu'il n'y avait pas tout ça.
Ah non.
Il n'y avait pas d'institut, il n'y avait pas de fac de théo.
Il n'y avait pas d'écrit encore.
Donc, à part leur enseignement, oui, Paul et Barnabas, ben pour la plupart des chrétiens d'origine païenne, il n'y avait rien.
Est-ce que l'enseignement n'était pas basique, tu vois? L'enseignement, ben, c'est l'évangile. L'évangile, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle de Jésus. Il n'y avait pas toutes les lettres, il n'y avait pas toutes les discussions qu'on peut avoir.
Et si tu étais pas, si tu n'étais pas dans une église judéo-chrétienne, il n'y avait même pas de texte de l'Ancien Testament.
Non, il
n'y
avait pas.
Je pense bien que Paul ne se promenait pas avec des rouleaux de la Torah sous les bras, distribués à qui ne savait pas lire l'hébreu, etc. Non. Donc, on imagine l'audace, c'est pour ça que je parle d'audace, dans les communautés où il y aurait très peu de juifs, comment ont-ils fait pour s'imprégner? Et c'est là, moi je pense qu'il faut vraiment se dire, l'Esprit Saint y est pour quelque chose.
Ah oui.
L'Esprit Saint agit dans ces églises naissantes de manière époustouflante. Parce qu'elle va donner à ces hommes des capacités que quelques mois auparavant, ils n'avaient pas. Et d'ailleurs, on sait, notamment pour les églises en question dont on parle depuis quelques semaines, on sait que ça va devenir la Pamphylie, la Phrygie, etc., la Pisidie, vont devenir le centre du christianisme en Asie mineure. ça va essaimer dans toute la Turquie actuelle, si vous voulez. Hein. Donc, c'est pas rien, quoi. Hein. Tout ça partit de ce travail de Paul et Barnabas, quoi. Hein. Alors, je ne sais plus où j'en suis, finalement.
Au 24.
Oui, alors, la suite du 23, c'est la manière. Mm-hmm. Comment sont-ils parvenus à faire cette désignation? Eh bien, en priant. Alors, le texte peut varier un petit peu d'une version à l'autre, mais globalement, il y a eu une mise devant Dieu. Mm-hmm. Et puis, il y a eu même le jeûne. Donc, des prières imprégnées, ça veut dire le jeûne, ça veut dire du temps. Ça veut dire, c'est pas juste j'ai sauté le petit déjeuner. Non, hein, c'est peut-être plusieurs jours de jeûne devant Dieu pour se dire trouvons les bons responsables. Et ça suppose quand même que l'Église y ait participé. Ouais. Donc là, on n'est plus seulement, c'est pas que Paul et Barnabas qui prient dans leur coin et qui jeûnent. C'est l'ensemble de la communauté. Et puis, ensuite, on confie officiellement et on confie au Seigneur. Ça, j'aime bien le terme. On confie au Seigneur ces hommes que l'on vient de désigner, finalement.
Il y a une grande chose qui a changé avec la venue de Christ, c'est que l'ancienne alliance, c'était l'ère de la prêtrise, et les prêtres officiaient pour le peuple. Mm-hmm. Et le peuple se tenait en bas en attendant la réponse de Dieu. Je résume ici. Mm-hmm. Tandis qu'à partir de Christ, on voit... Et là, Alfred Kuhn insiste beaucoup aussi. On voit que on est dans l'ère du corps de Christ, où tous les membres appartiennent au même corps. Et on n'est plus dans l'ère où il y a une caste de personnes spécialisées qui sont capables de diriger et les autres attendent que quelque chose se passe. Non, tout le monde fait partie de ce corps. Chacun est membre du corps pour le membre qu'il est. Et il agit en fonction. Et donc, dès la dispensation de la grâce, l'Église est toujours participante. Mm-hmm. Et j'ai souligné beaucoup de choses en fluo vert, parce qu'à l'époque où j'ai eu ces fameuses discussions avec l'ancien témoin de Jéhovah, qui est vraiment un frère, hein, c'est incroyable sa conversion, il faut l'entendre, on se réjouit. Mais il était encore assez obtus sur le choix des anciens, comme je dis tout à l'heure. Mais le nombre de versets dans la Bible où on voit que l'Église est là, présente, qu'elle écoute, qu'elle participe, qu'elle prend des décisions, qu'elle s'informe. Les apôtres ne font rien en secret dans un comité, là, tout seul. Et puis on dit, voilà, on a décidé ça. Non, l'Église est toujours réunie comme un corps, où chaque membre a sa spécificité et son action. Mmh. Et là, le nombre de fois qu'on voit l'Église, les frères, hommes-frères, l'Assemblée, c'est impressionnant, quoi. Sur un chapitre, pratiquement. Allez, un et demi. Sur un chapitre et demi, c'est impressionnant de voir que les Églises et les frères sont présents. Mmh. Pas juste les petits dirigeants.
Et c'était déjà le cas à Jérusalem. Donc, comme je disais tout à l'heure, il n'y a aucune raison... ça ne se reproduise pas partout où on fonde des églises à cette époque-là. Quoi. Et donc, je voulais encore ajouter une chose. Il me semble, en tout cas, que rien que ces nominations, là, ça a pris du temps, là aussi. C'est pas de précipitation. Et on peut se dire que c'est aussi une manière de préparer les candidats au ministère, de prendre ce temps... de les confier au Seigneur, on suppose imposition des mains, là aussi, hein, d'une certaine manière. Ce sont des moments que les anciens nommés ne vont jamais oublier. Mmh. Et ils vont pouvoir mettre toute leur confiance en Jésus par rapport à ce travail qu'ils ont à accomplir pour une communauté locale. Et comme tu le dis très bien, c'est facilité... par le fait que les communautés, c'est un corps vivant. Donc, ce n'est pas juste des gens à qui on dit ce qu'il faut faire, mais c'est participatif. Les gens s'engagent, les gens sont eux-mêmes attachés au Christ, etc. Et on sait que dans l'Église du premier siècle, nombre de personnes pouvaient prendre la parole publiquement chose qu'on a plus ou moins interdit dans nos églises progressivement, et surtout à l'ère moderne, t'en as trois qui parlent et puis ça suffit. Alors qu'on a perdu ce côté qui était très, très fréquent dans le milieu juif, c'est que qui veut parler, parle. Qui veut prier, prie. Qui veut chanter tout seul, chante tout seul un psaume. Voilà. Bon, et nul n'a rien à redire à ça, quoi. Ok. Alors, je voudrais noter une chose pour terminer avec ce verset 23. Dans l'expression « confier les anciens au Seigneur », moi, j'y vois un véritable acte de foi de la part de Paul et Barnabas. Ils reconnaissent au fond que seul le Seigneur peut doter les anciens des charismes nécessaires pour diriger, guider, consoler, aider, et aussi toutes les lumières du Saint-Esprit pour exhorter, enseigner les disciples dont ils ont maintenant la charge. Car au moment où ça se passe, ni Paul, ni Barnabas, ni les églises ne savent s'ils se reverront. Donc il n'y a pas la promesse, tiens, je reviens dans 6 mois, et on va faire un séminaire. Hein. Aussi bien, Paul meurt dans une ville lapidée et ne revient jamais. Donc, on est l'Église pour toujours. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas une carte, on n'a pas un joker pour dire « Ah, si ça va mal, on va vite appeler quelqu'un, et Paul va revenir, et Barnabas, et ci et là. » Non, il n'y a pas tout ça. Il y a trop de dangers à ce moment-là, que ce soit l'opposition religieuse, le paganisme, ou les dangers des voyages, que ce soit à pied, à cheval, en voiture, en bateau, etc. Pas possible. On peut rien gager. Donc, oui, je pense qu'ils ont eu un acte de foi en se disant que le Seigneur, maintenant, va prendre les rênes et faire en sorte que ces églises continuent à être des témoins. Et on nous raconte, alors, versets 24 et 25, que ils reprennent leurs valises après avoir fait ça. Hein. Ils traversent la Pisidie. Ils redescendent vers la côte, si vous voulez. Et ils se rendent en Pamphylie. Et là, en Pamphylie, vous vous rappelez sans doute de ça, ils vont s'arrêter dans la ville de Pergé, avant d'aller au port d'Attalia. C'est la fin, plus ou moins, du périple en Asie mineure. Et qu'est-ce qu'ils font à Pergé?
Annoncer
la parole. Ok. Donc un peu comme à Derbé, ils s'arrêtent là, et vous vous rappelez, sans doute, on avait vu ça au chapitre 13, dans les versets 13 à 14, ils s'arrêtent à Pergé parce qu'à l'aller, ils ne s'y étaient pas arrêtés. Ils y ont logé une nuit, je crois, si j'ai bon souvenir, et puis ils ont filé vers Antioche. Et donc, pour ne pas rater le coche, ils sont sur le tout près du port, donc si jamais ça tourne mal, non, je rigole. Ils s'arrêtent dans la ville où ils n'ont pas pu faire grand-chose en venant. Et on ne sait pas grand-chose de ce qui s'est passé à Pergé. Ça, à nouveau, c'est une phrase très laconique. Hein. Mais en tout cas, on peut en déduire qu'il y a eu du résultat, puisque l'absence de remarques négatives de Luc, il n'y a pas l'ombre d'un problème, d'accord? Ils font le job à Pergé, on ne nous parle pas qu'ils ont été embêtés, qu'il y a eu de l'oppression, qu'ils ont dû partir en vitesse, etc., laisse entendre, finalement, que ça s'est bien passé à Pergé.
Comme à Derbé.
Exactement. Donc on pourrait dire que le voyage se termine quand même relativement bien. Et puis, alors, de là, dit le texte, il file à Attalia, donc ça c'est la fin du 25, descendir à Attalia. Donc vous rappelez que Pergé, c'est déjà plus haut par rapport à la côte. Hein, donc il fallait redescendre vers Attalia. Attalia, je le rappelle, c'est le port, le principal port de cette région. Et qu'est-ce qui se passe ici?
Apparemment, là j'ai l'impression qu'il n'annonce pas la parole.
Non. Ni à l'aller, ni au retour. On ne sait pas trop pourquoi, effectivement. Alors ça ne veut pas dire qu'ils n'ont rien fait. Hein. Mais en tout cas, il ne semble pas qu'ils aient fondé une communauté à Attalia. Et pourtant, c'était un grand port, hein, c'était pas n'importe quoi, quoi. Et on nous dit tout simplement, ils firent voile vers Antioche. Voilà. Voilà. Donc, d'Atalia, une fois qu'on est à Atalia, on prend un bateau.
Et ils n'ont même pas été à l'allée, à Atalia.
Oui, non, à l'allée, ils sont passés par un autre petit port. Directement. Oui, ouais. Par un petit port près de Pergé. Ouais.
Alors, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas profité de cette nouvelle ville ?
Mystère.
Ouais, je sais pas.
En tout cas, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous frappe dans ce retour ou pas ? Par rapport à l'allée ?
La paix, la sécurité, le calme.
Oui, mais je veux dire en termes de voyage lui-même. Comment s'était passé le premier, enfin le départ ? Ils étaient partis du port près d'Antioche et ils sont passés par. C'est le début de notre histoire, hein, le tout début du voyage.
Antioche, ils ont été à Séleucie. Et puis. Sur l'île de Chypre à Salamine.
Voilà. Donc ici, au retour, ils prennent un bateau direct.
Ah oui, direct.
Comme vous voyez ce que je veux dire ? Ils n'ont pas pris le temps de repasser par Chypre, voir ce qu'ils étaient passés à Chypre, d'accord ? Donc tout d'un coup, on sent qu'ils sont quand même un peu au bout du rouleau, nos deux amis. Et ils décident cette fois-ci de prendre un direct pour Séleucie, hein, pour rentrer en Antioche de Syrie aussi rapidement que possible, par la voie. Pas nécessairement la plus courte, puisqu'on a vu qu'ils auraient pu passer par la Cilicie, mais en tout cas, la plus courte d'une manière maritime, sans faire trop de bazar. Et je pense qu'il est temps, effectivement, pour eux... Alors, on ne sait pas quantifier, n'est-ce pas, combien de temps a duré ce voyage, mais sans doute un ou deux ans au total. Peut-être trois, parce qu'on ne sait pas. On sait juste qu'ils ont pris du temps dans chacune de ces villes, etc., donc, admettons 2, 3, 4 ans grand max. Je pense qu'ils sont tous les deux fatigués et que la fin du voyage en particulier, enfin, je pense à l'Istre, ça n'a pas été du gâteau. Donc, il y a de bonnes raisons de rentrer. Et pourquoi entrer à Antioche ?
Ben, c'est chez eux. C'est de là qu'ils avaient été.
Sois plus précise.
C'est là qu'ils avaient été envoyés.
Voilà, c'est leur communauté mère, c'est la communauté qui les a mandatés, qui les a missionnés. Et donc on imagine bien qu'il y a une envie de retrouver la communauté d'origine.
Et de raconter.
Et de rendre rapport, effectivement, de ce voyage missionnaire. Alors on sait, par les pratiques culturelles, que vraisemblablement Antioche a dû être informé d'un certain nombre de choses, parce qu'à l'époque, tout un chacun qui voyage, et notamment les commerçants, rapportait des textes, des lettres, ou des mots, ou peu importe, et on avait comme ça quelques infos de ceux qui étaient au loin et qui n'étaient pas prêts de revenir, hein, d'accord ? Donc, ils retournent dans cette communauté où ils avaient été remis, dit le texte, à la grâce de Dieu. Et ça, j'aime bien cette petite phrase, parce qu'elle est très lucanienne. Il dit quoi ? Il dit au fond, voilà, ils retournent dans la communauté d'origine qui les a envoyés et où l'Église les avait confiés à Dieu pour faire ce travail qu'ils venaient d'accomplir, dit le texte. Sous-entendu, Luc fait un peu un commentaire en plein texte, comme ça, pour dire, ben voilà, ils ont fait du bon travail. Et maintenant, ils rentrent, ils vont pouvoir rendre compte de ce qu'ils ont fait auprès de l'église d'Antioche. Et que font-ils dès leur arrivée ? À peine arrivés à Antioche,
ils convoquent l'église.
Voilà. Donc, pour eux, il y avait quelque chose d'important. Ils avaient envie de vider leur sac, de raconter tout ce qu'ils avaient vécu. Et ce que j'aime bien, ça rejoint ce que Bernard disait tout à l'heure, on est de nouveau non pas devant un rapport à des autorités, mais un rapport à la totalité de la communauté. Tout un chacun est convoqué pour entendre les belles choses que Dieu a faites en Asie mineure dans ce premier voyage. Tous les fidèles sont concernés.
Je me suis dit aussi le fait que cette église d'Antioche, si je ne me trompe pas, Yves, c'est une église qui est composée en majeure partie de juifs convertis.
Il y a pas mal de juifs.
Peut-être il y a aussi des
plus que partout ailleurs.
Oui. Mais la majeure partie.
La grande partie, c'est des juifs messianiques, effectivement.
Et tout a démarré avec le Saint-Esprit qui a dit « Mettez à part Paul et Barnabas ». Donc ils ont reçu l'ordre du Saint-Esprit. Ça doit être probablement autre chose que ce que nous, on pense. On n'a peut-être plus l'habitude. Mais donc, c'est une mission officielle.
Exact.
Pas seulement de l'Église, mais du Saint-Esprit.
Effectivement.
Et je me suis dit que peut-être, dans leur tête, ils n'avaient pas à bâcler le retour, mais ils devaient dire, voilà pourquoi le Saint-Esprit nous a envoyés. Et convaincre peut-être encore plus, après des années, les Juifs devenus chrétiens, que Christ a réellement ouvert le monde à l'Évangile.
Alors ça, c'est cette partie de phrase qui dit... ils racontèrent tout ce que Dieu avait réalisé avec eux.
Ouais.
Ça rejoint ce que tu dis sous une autre forme, si tu veux. Ouais. Au fond, j'aime bien cette idée que Paul et Barnabas placent Dieu à la première place, au premier plan, se présentant plutôt comme des aidants. Hein? Dieu nous a mandatés, l'histoire du Saint-Esprit. Dieu était avec nous sur place, on a fait ci, on a fait ci, on a fait là. Mais au fond, c'est Dieu qui détient les clés. Et pourquoi le font-ils ? Parce que, comme tu viens de le dire, il s'agit de démontrer que la mission auprès des païens est une mission divine avant tout. C'est-à-dire, c'est pas juste « moi, Paul, j'ai envie de partir vers les païens » ou bien « moi, Antioche, j'ai décidé que deux pingouins devaient partir à l'autre bout de la terre, essayer de convertir des païens ». C'est pas ça. Donc, ils sont en train de démontrer que Dieu a tenu les clés de leur action sur le terrain. Dieu a fait en sorte que certains endroits, c'est un big succès, ailleurs, ça l'est moins. C'est lui qui les a inspirés, c'est lui qui les a dirigés par son Saint-Esprit, et c'est lui qui ouvre aussi les cœurs des païens. Car ce qui s'est passé à Lystre, rappelez-vous l'histoire de l'infirme, c'est quand même uniquement la faute à Dieu. Vous voyez, c'est pas juste Paul qui a décidé, tiens, je vais guérir un type ici, puis ça va marquer les esprits. Ben, ça a surtout marqué son corps à lui, entre nous, soit dit. Donc, c'est vraiment Dieu qui est à la manœuvre. Comme Pierre avait dit que pour Corneille, c'est un ordre qu'il a reçu de la part de Dieu d'aller voir Corneille, eh bien, c'est un peu le même genre de principe ici. C'est Dieu qui a mandaté, au travers de l'église d'Antioche, via le Saint-Esprit, c'est Dieu qui les a accompagnés, c'est Dieu qui a fait en sorte qu'il y ait cette guérison incroyable à Lystre, et que finalement, globalement, le premier voyage est un succès. En tout cas pour les païens, d'accord ? Peut-être moins pour les juifs, mais pour les païens. Et revenir à Antioche dans un milieu essentiellement juif messianique, pour rapporter ce que Dieu a fait auprès des païens, c'est effectivement une manière de... Voilà. D'assurer que tout le monde a bien compris que Dieu a choisi que ce soit comme ça, et pas autrement. Et c'est ce que dit la dernière phrase du verset 27, hein, et surtout comment il avait ouvert, il au singulier, c'est ni Paul ni Barnabas, c'est de Dieu dont on parle ici, il a ouvert aux païens la porte de la foi. Et c'est bien de se poser la question, c'est qui ce « il » ? C'est donc bien Dieu lui-même qui ouvre la porte aux païens, comme il l'avait d'ailleurs initié, je le rappelle, avec le centurion Corneille. Et Paul utilise d'ailleurs assez souvent, il utilisera, pardon, assez souvent, cette image d'une porte ouverte, de la porte de la foi dans ses écrits. On retrouve ça dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, dans Colossiens, où il insiste sur l'idée que Dieu a voulu ouvrir la porte à toute l'humanité, parce que les païens, c'est ça, hein, c'est tous ceux qui n'étaient pas juifs, finalement. Et alors, on a notre dernier verset.
Qu'est-ce qu'il a voulu demander, Yves ?
Ils passèrent alors... Alors, je ne sais pas dans vos versions, mais... moi, dans la tome, on est raisonnable, on dit un certain
assez
temps, comme ça, on ne se mouille pas trop.
Assez longtemps.
Ok. Ah, vous rappelez, alors je retraduis littéralement quand même le grec en disant, alors c'est pas il passait un certain temps, mais il demeurait, l'idée de rester statique, il demeurait un temps pas petit avec les disciples.
Pas petit.
pas petit, ça veut tout dire. C'est donc plutôt grand. D'accord. C'est l'insistance du grec, c'est pour dire c'est un big temps qu'ils ont passé à Antioche. Auprès de qui? Des disciples. C'est-à-dire non pas de l'establishment, non pas des chefs d'Antioche, etc., mais bien de la communauté tout entière. Et on peut se demander pourquoi. Pourquoi ils ont passé beaucoup de temps à Antioche? Alors, rappelez-vous, on a déjà rencontré ce type d'expression en 9-23, hein, l'histoire d'un temps assez long ou assez... Vous voyez ce que je veux dire, hein. 9-23 et 14, 3 aussi, on avait déjà vu ça. Donc, je vais lire un 9-23. Oui, c'est à la fin de la prédication de Sola Damas, hein. Il dit « Un temps assez long s'était écoulé quand ces Juifs se concertèrent pour le faire périr. » Donc, on a cette expression en grec d'un temps, plutôt avec le mot « petit », si vous voulez, « pas petit hein, », sous-entendu « très long hein. ». On a ça, et en 14 fois aussi, on retrouve le même genre d'expression. C'était pour que... Paul et Barnabas n'en prolongèrent pas moins leur séjour un certain temps. Donc, quand on a ces traductions-là, dans les actes, c'est généralement pour dire que c'est un temps relativement long. D'accord ? Alors, on peut se demander, alors, si on est d'accord plus ou moins là-dessus, pourquoi ? Pourquoi aussi longtemps ? Eux qui étaient pressés d'évangéliser, de convertir des païens, pourquoi perdre du temps à Antioche ? Je pense qu'il y a quand même plusieurs... Voilà. Alors déjà, j'imagine qu'après avoir voyagé pour la plupart du temps à pied sur des milliers de kilomètres, d'avoir été pris par les pressions et les oppressions, voire même les coups, t'as peut-être envie quand même d'arrêter un moment. Un peu de... Voilà, exactement. Donc, repos physique, d'une part, ça me paraît légitime, et puis ressourcement. Après un dur labeur, pourquoi eux ne pourraient pas être aidés, écoutés, encouragés par la communauté d'Antioche, qui est leur communauté missionnaire, la communauté qui les a mandatés de la part de Dieu pour faire ce travail. Donc tout ça... Ça peut, on peut déjà comprendre qu'il faut un petit temps pour faire ça. Ensuite, n'oublions pas, parce qu'on le découvrira au chapitre 15, donc c'est un peu tôt, mais n'oublions pas que c'est durant ce temps de recul que Paul a dû défendre sa mission spécifique. Et la défendre auprès de qui ? Ben, auprès du collège des apôtres de Jérusalem. Donc là, de nouveau... pour maintenant que cette mission a été un succès, il va falloir aussi rendre compte à l'église mère de Jérusalem. C'est la mère d'Antioche, vous voyez ce que je veux dire. Donc, nécessairement, il faut remonter jusqu'au bout de la chaîne. Et lui, qui n'est pas vraiment du collège des apôtres, va devoir défendre sa qualité d'apôtre auprès des païens. Et on verra dans le chapitre 15 qu'il sera un petit coup de pouce de Pierre pour y arriver. Donc ça a aussi demandé du temps. Et puis, je crois qu'ils n'ont pas perdu de vue, ni Barnabas ni lui, l'idée de repartir. Donc ce temps qu'ils passent à Antioche, c'est aussi un temps approprié, privilégié, pour évaluer ce premier voyage missionnaire, première étape hein, des choses, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on a mal fait, qu'est-ce qu'on aurait dû faire, et en tirer toutes les leçons afin de préparer au mieux... Le voyage suivant. Or, on va dévoiler un peu les cartes. Le voyage suivant, ça va quand même les mener jusqu'en Europe. Et cette fois-ci, on verra qu'ils feront beaucoup plus confiance. Enfin, pas beaucoup plus confiance, je me trompe en disant ça. Ils vont être davantage guidés par le Saint-Esprit. Parce que dans ce premier voyage missionnaire, à part l'envoi, et là je te concède les choses, tout ce qui s'est passé après, c'était juste suivre la voie impériale, d'une part, et deux, avancer au fil des oppressions. Parce qu'ils n'ont pas eu le choix. Et là, à part la guérison à Lystre, il n'y a rien d'extraordinaire. Or, dans le deuxième voyage, on va voir que bien souvent, c'est le Saint-Esprit qui dit « ça non, ça oui ». Là, tu vas pas. Là, tu vas. Hein. Mais bon, on va pas dévoiler toutes les cartes. Donc, il y aura une implication, je pense, du Saint-Esprit beaucoup plus grande que dans ce premier voyage, qui était peut-être un ballon d'essai hein, pour le Saint-Esprit, de dire, voilà, comment ça va marcher. Quoi, hein. Voilà. Alors, en termes d'application, je pense qu'on en a déjà pas mal dévoilé, mais si vous en avez... À part, je sais pas ce que vous voulez, je veux dire.
Ouais. Est-ce qu'on peut imaginer aussi, Yves, que ce temps assez long parmi les disciples, ils ont dû se reposer, comme tu dis, très certainement, mais est-ce qu'ils n'ont pas pris le temps aussi de consolider, aussi, avec les prophètes et les docteurs
oui,
qu'il y avait.
Il y avait énormément de gens acteurs.
Ouais, ouais. Mais j'ai difficile de penser que on s'est reposé, on n'a plus rien fait.
Plus rien fait.
Non, ils ont dû continuer leur ADN. Leur ADN.
D'ailleurs, qu'est-ce qui va leur tomber sur le nez au chapitre 15 C'est pendant ce temps de recul que se déroule le conflit dont on va parler la fois prochaine. Donc, on va étudier la fois prochaine juste 6 versets, le début du chapitre 15, petite péricope que j'ai intitulée « Désaccord ». Autour de l'imposition de la circoncision aux croyants d'origine païenne. Alors, ça éclate à Antioche. Alors, c'est assez rigolo. Ça éclate à Antioche dans une église composée, allez, on va dire à 80% de juifs messianiques, donc de gens circoncis. Et puis, des bonnes langues de Jérusalem vont se pointer pour dire « Mais je crois qu'il faudrait quand même que les païens soient circoncis. » Voilà. Donc, c'est pendant ce temps qu'il passe à Antioche qu'éclate ce problème. Ça n'a pas éclaté tout de suite. Manifestement, il s'est déjà passé un certain temps. Mais voilà que ce problème va naître et ça va impliquer Paul et puis aussi tout le collège des apôtres de Jérusalem. Quoi. Voilà. Je ne sais pas, je t'ai coupé la parole.
Non, peut-être. Pas du tout. Non.
Une ou deux applications éventuellement. Je ne veux pas vous priver de partage...
Je m'interroge un peu, moi, sur le fait qu'il faut souffrir hein, pour sa foi, pour étendre la fortifier sa foi et agrandir le royaume. Je me dis qu'avec des gens qui sont païens, si on leur présente actuellement la bonne nouvelle par ce biais-là, il me semble qu'il court à toutes jambes, moi.
Surtout en Occident.
Ils font déjà des remarques, que je, parce que j'oublie, il faudrait que je les note, mais pour rien, ça va, c'est tout de suite des remarques qui... Hein, ben si c'est ça, hein, la foi,
encore. Notre foi a toujours des conséquences. Et souvent, les gens se moquent de nous. Hein.
Parce que Jésus l'a quand même plutôt accentué sur le côté de la joie, qui donnait la joie en abondance, la paix, etc.
Mais même dans la persécution,
alors, justement,
dans le... Sermon sur la montagne, heureux serez-vous quand vous serez persécutés. Donc, mais il n'a pas dit ça à des tout nouveaux non plus, pour autant je me souvienne. C'est des églises qui avaient été fondées, qui se sont développées, qui ont peut-être souffert sans doute aussi de l'opposition. Ils ont vu l'opposition contre Paul et on vient dire ben, c'est normal, quoi, hein, c'est comme ça.
Est-ce qu'on ne peut pas dire que, pour un peu accentuer ta demande, hein, Marie, que Dieu nous fait découvrir au travers des épreuves la joie véritable.
Une autre joie, oui.
Une joie qui n'est pas celle que composerait l'occidental qui a besoin de son petit confort, son petit machin pour être bien, pour être heureux. Non,
il y a une joie. C'est ça,
Ah ben voilà.
C'est ça, pour que.
Je crois qu'il ne faut peut-être pas l'amener et laisser justement, suivant les expériences que les gens vont vivre, tu vois. À un moment donné, s'ils sont dans la détresse ou...
Parce qu'à la fois, tu as un Jésus qui dit « il va falloir porter votre croix
».
C'est ce qu'il dit. Il ne le cache pas dès le départ. Hein? Et pourtant, c'est le même qui dit la joie, la vie en abondance.
Quand on pense qu'il a dit qu'il est venu apporter une épée qui est là pour séparer entre le père et le fils, si j'ai bon souvenir, il a annoncé qu'il y aurait des persécutions. Il a annoncé aux disciples que on allait le rejeter, qu'on allait les rejeter. Ça n'a pas toujours été un message de joie. Hein. Il a été assez ouvert.
Mais ça reste un message de joie. L'évangile,
c'est un message de joie.
Parce que c'est la joie du salut.
Mais
c'est la lumière. C'est parce que c'est ça qui est essentiel.
Il a été assez clair pour dire aussi que par moments, il y aurait des souffrances.
Ah oui, mais même dans les souffrances, tu peux rester et avoir la joie du salut.
Bien sûr.
Parce que tu es sauvé, ça c'est juste magnifique.
Mais ça, on en fait l'expérience parce qu'on fait ce choix.
Oui.
D'approfondir la relation, voilà.
Tu as cette joie du salut.
Mais il y en a
même dans
qui ne veulent pas commencer à envisager ça et qui d'office, d'ailleurs c'est ce qu'on entend toujours, hein, comme avec la souffrance tu peux pas bien du bon, la souffrance du monde, et comment ça c'est encore pire maintenant. Bon, t'as beau leur dire qu'il fallait bien la liberté des hommes.
Il y a des prédicateurs qui disent qu'on ne peut pas annoncer l'évangile sans la croix, qu'on ne peut pas annoncer l'évangile sans la souffrance et sans, sans le côté horrible de notre Sauveur qui est mort pour nous, et du péché qui condamne, et du péché qui nous éloigne de Dieu. Mais en même temps, il parle de son salut qu'il veut nous donner par amour. Et je dévie peut-être trop vite, mais une application personnelle que je trouve, mais elle n'est pas vraiment personnelle, mais c'est une découverte que j'ai faite au fil des années. La sagesse de Paul et de Barnabas, c'est d'enseigner tout le conseil de Dieu. Non seulement la voie royale, comme tu dis souvent depuis des semaines, qui amène le salut, mais aussi la souffrance, la consolidation, l'enseignement qui exhorte. Et Guy et moi, on a connu un pasteur qui ne voyait que l'évangélisation. Et quand on lui disait, mais tu n'as pas une fois un message pour les chrétiens, pour consolider, pour encourager, pour exhorter, il nous avait répondu, mais qu'est-ce que vous croyez, si je fais ça, je vais faire fuir les gens. Mais non, l'apôtre Paul, il donne tout le conseil de Dieu, qui est la joie, la perdition, l'épreuve, la consolidation, l'encouragement, une âme abattue, elle a besoin d'être renouvelée. Et c'est ce qu'il a fait pour les Barnabas, c'est ce qu'ils ont fait dans les églises. Ils ont assuré eux-mêmes, mais assuré aussi que d'autres personnes puissent, par l'ensemble de ceux qui étaient capables, pas une personne, mais l'ensemble de personnes qui étaient capables, de pouvoir accorder ce que l'Église a besoin.
Une nourriture plus solide. Le bébé, l'enfant, passe à quelque chose de plus consistant, de plus... Je crois que c'est un peu comme ça dans notre progression aussi.
Jusqu'au jour où je vais rencontrer le Seigneur, j'ai besoin de grandir. J'ai besoin d'entendre la parole de Dieu. J'ai besoin qu'on me l'enseigne. Mais si on me raconte tous les dimanches toujours le même message du salut, oui, je me réjouis parce que c'est ce qui m'a sauvé. Et c'est la vérité. Mais j'ai besoin de plus.
D'où tout le verbe affermir dans le texte. Affermir, c'est donner plus que
le petit
message du salut, le petit truc gentil, etc. Quoi.
Et là, je rejoins Anne-Marie sur ce que tu viens de nous partager. Ben, affermir, c'est dire aux gens que Dieu nous aime, qu'il est bon, qu'il est un Dieu sauveur, mais c'est dire aussi que c'est un Dieu terrible, que les gens vont devoir rencontrer un jour. C'est pas si évident. Maintenant, comment on fait ?
C'est encore moins évident aujourd'hui en Occident. Je pense que les Occidentaux sont déformés par la philosophie des Lumières en particulier, et donc, et en plus maintenant, sont déformés parce qu'ils veulent surtout pas souffrir, hein, ils veulent surtout pas d'ennuis, ils veulent pas ci, ils veulent pas là. Résultat, découvrir le Christ, c'est une question légitime que je me pose avec plein d'autres. Hein. Comment amener l'évangile aujourd'hui à des gens qui ont soif, mais qui ne veulent pas ceci, qui ne veulent pas cela, qui veulent leur petit confort, qui... c'est pas évident. Alors, une des pistes que je développe avec d'autres amis, c'est l'idée, d'autres théologiens, c'est l'idée peut-être aujourd'hui d'axer le témoignage davantage sur ce qui préoccupe les gens aujourd'hui, c'est la nature, c'est le climat, c'est toutes ces choses, et dire, mais celui qui est à la source de tout ça, c'est Dieu. Voilà, c'est ce que nous croyons en tant que créateur. Hein, la création, aujourd'hui, c'est même un gros mot dans le milieu occidental. Parler de création, c'est aberrant, quoi. Hein. Et pourtant, tu as des savants eux-mêmes qui disent, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est impossible, mathématiquement impossible. Donc voilà, il y a une intention au départ, il y a quelque chose qui, alors appelons le Dieu, puisque nous on y croit, peut-être qu'il faut revenir à des schémas de prédication très pauliniens, c'est-à-dire quand je suis avec des païens, parce que c'est comme ça qu'il faut considérer nos concitoyens aujourd'hui, des hédonistes, des tout ce que tu veux, eh bien il faut leur parler du Dieu créateur. Surtout pas, il faut essayer de les amener vers ce qu'ils vivent eux, mais c'est pas évident, hein. Je trouve que c'est pas simple du tout. Alors, de temps en temps, tu as des gens qui ont quitté l'église pour des tas de raisons, et bien souvent malheureusement pour des raisons graves, et les ramener dans l'église, alors eux ils ont un fond, ils connaissent, ils savent, ils ont entendu des choses sur la Bible, etc. Là, il y a peut-être moyen d'avoir encore l'ancien vocabulaire. Mais avec des gens qui ont été complètement lessivés par la philosophie actuelle, la culture dans laquelle on est, je pense que c'est extrêmement difficile de les attirer à Dieu, quoi.
Même quand tu donnes un témoignage personnel en 3 minutes, tu te changes 3-4 fois mon témoignage.
On va demander l'intelligence artificielle pour un témoignage. Elle est contemporaine. Moi, je voulais juste faire une observation, si vous me permettez d'avoir une application. Et pour terminer, moi, tu voulais dire quelque chose? Moi, ce qui m'a frappé, notamment dans le voyage globalement, mais en particulier dans cette dernière partie, c'est comment Paul et Barnabas ont pris du temps. Prendre le temps de bien faire les choses. Pas à moitié, pas juste une petite campagne et puis je me barre. Et puis... Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, et tu l'as dit, prendre le temps de faire grandir, d'affermir les gens dans la foi pour avoir des églises solides en réalité, qui vont durablement témoigner. Dans l'espace où elle se trouve, quoi. Et ça, je pense, ça m'a profondément marqué. Parce qu'après tout, vu l'opposition, les oppressions, moi, j'aurais été Paul, j'aurais dit, bon, allons voir ailleurs. Hein. Filons vite ailleurs. On va remonter un truc ailleurs. Mais c'est pas ce qu'il fait. Il reste jusqu'à ce qu'il se soit impossible de rester. Puis là, ils vont fonder autre chose. Mais ils ont quand même, alors là, ça le rejoint un truc que tu as évoqué, ils ont quand même eu le culot de revenir dans les 3 villes où ça s'était mal passé, avec en plus un témoignage personnel, c'est-à-dire que tout le monde a appris par là, hein, le tam-tam, le tam-tam messianique, que Paul avait été lapidé à Lystre. Donc ils reviennent, eux, qui auraient dû éviter de revenir dans les villes où ils étaient plus ou moins bannis pour affermir l'Église. Chapeau. Hein. Moi, si j'avais été les gens de Lystre, d'Iconium ou d'Antioche, j'aurais dit chapeau bas, quoi. Il faut oser quand même le faire. Voilà, mais Dieu les a convaincus de devoir le faire. Ça, c'est formidable, quoi.